Alors pour parler de Zineb Redouane, on a pas mal de choses. Déjà, on va rejoindre la manif d'ici quelques minutes. Mais d'ici là, on va écouter les témoignages, les jours qui ont suivi l'assassinat de Zineb Redouane. Donc c'était en décembre 2018. Les micros de Radio Galère étaient déjà sur place à l'époque. Et donc du coup, il y avait eu des rassemblements, plusieurs rassemblements dans les jours qui ont suivi sa mort. Et donc on écoute tout de suite les témoignages des voisines de Zineb Redouane quelques jours après sa mort.
Quand vient le moment des plus douloureux, des plus déplorables. Bon, ça grondait depuis longtemps, je pense que le décès de cette dame... c'est une voie de plus inadmissible et c'est plus possible et je suis très émue et je préfère garder un peu mon émotion pour moi et en hommage à cette dame.
C'est la dame, ça s'est passé ici ?
Au quatrième étage.
Ouais, la pauvre, j'ai vu. Non, mais c'est l'endroit où il y a la dame qui s'est pris le fumigène, elle est décédée là.
Non, c'est pas un fumigène.
C'est un flash.
Une lacrymogène.
C'est grave, hein.
De la part de la police.
Il paraît qu'ils l'ont visé, voilà, ouais.
Absolument.
C'est incroyable, elle est morte en voulant fermer ses fenêtres.
Exactement.
C'est grave. Hein.
On se croirait encore à la bataille d'Alger, là. Non, ça va. Visiblement, elle a dit à sa voisine avant de mourir qu'elle était visée. C'est vrai que c'est quand même au quatrième étage, c'est très haut, quoi. Donc. Et le procureur, comme d'habitude, a expliqué que c'était un arrêt cardiaque, comme il avait expliqué en région parisienne quand Adama Traoré a été tué, que c'était un arrêt cardiaque, forcément, bon.
C'était 6 heures comme ça.
6 heures ?
Oui, 6 heures. 5h30, 6 heures. 6 heures, comme ça. À ce temps-là, 6h, 6h15, comme ça. Les pompiers ont appelé tout, moi, les voisins. Déjà, elle avait, malgré le visage déchiré,
je suis désolé de vous demander de décrire ça, mais elle avait le visage ensanglanté ou...
Plein de sang, elle était trempée de sang, ses mains, sa poitrine, parce que la balle, elle est venue juste sur le visage, et elle était défigurée. Et la bombe, elle a frappé sur le visage, après elle est tombée sur la poitrine droite. Et je l'ai fait sortir de ses gestes, de la maison, je l'ai mis dans l'ascenseur. Et elle m'a dit, je rentre pas chez toi, je rentre juste dans la cage d'escalier. Appelez-moi la police et appelez-moi les pompiers pour qu'ils m'emmènent à... Sauve-moi. Essaye de faire quelque chose. Et nous, on était en train d'appeler les pompiers, l'ambulance pour... Mais ils ont mis du temps parce qu'elle parlait. Ils ont mis du temps pour venir parce qu'il nous a dit la route, elle est bloquée. Patientez, madame. Elle a parlé avec l'ambulancier et le médecin. Qu'est-ce que vous avez ? J'étais visée par un policier. Elle dit et elle le répète. J'étais visée par un policier par le trottoir CA. Et moi, j'habite au quatrième étage. Et après, ils ont emmené. Et
les policiers au niveau de CA, c'est ça ?
Oui, devant la porte, comme ça, devant la porte, sur le trottoir. Elle m'a dit, Nadia, ils m'ont visé sur mon visage, et les deux policiers, ils sont sauvés. Elle a dit, hein. Ils sont partis, elle m'a dit. Dès qu'ils m'ont visé, j'ai crié. Je lui ai dit, mais non, elle m'a dit, non, si, ils m'ont visé. Ils m'ont visé.
Ça, elle vous l'a répété à plusieurs reprises.
Comment ?
Elle vous l'a répété à plusieurs
reprises. Ah oui, elle a dit pour l'ambulancier, le policier, les pompiers. Elle parlait plusieurs fois. Elle a dit. Même à la Timone, ouais. Quand ils ont fait des points avec Imen, elle est restée jusqu'à 4h du matin. Et après 4h, ils l'ont emmenée vers l'hôpital La Conception parce qu'elle avait des fractures sur la mâchoire. Et là, elle est restée jusqu'à 2h. Il est venu le médecin. Il lui dit, Madame Redouane, il ne faut pas s'inquiéter. Ne parlez pas trop, vous allez se fatiguer. Il lui dit, attendez, je vous raconte qu'est-ce que j'ai eu. Un policier, il m'a visé au quatrième étage. Il lui dit, il ne faut pas s'inquiéter, vous allez faire une intervention et vous allez se trouver très bien. Voilà. Et après, elle est partie sur le fauteuil roulant, consciente, jusqu'au bloc. Et après le bloc, elle n'a pas supporté L'opération. Non, non, l'opération. Elle était très, très, très fraîche, très touchée et c'est fini. On est resté jusqu'à 10h30 du soir.
Elle est morte à 10h30, ouais. Oui.
Voilà, 22h30. Les chirurgiens, ils sont venus dans la salle de famille, ils nous ont dit, ils mènent lesquels sa famille, ils nous ont dit, nous sommes là, si vous voulez la voir. Moi, je n'ai pas eu le courage. Moi, j'ai perdu ma mère à 56 ans, je n'ai pas pu. Mais Imen, elle est partie. Elle lui a fait la prière, c'est fini. Mais maintenant, chez moi, je ne peux pas rester chez moi. Dès que j'approche de chez moi, je trouve le corps. Et la porte pleine de sang chez moi. Je n'arrive pas à voir. Je suis chez mon fils, je ne peux pas rester à la maison. Impossible. Impossible de rester chez moi.
Madame, vous êtes
généreuse. Je suis une amie intime depuis plus de 20 ans. C'est moi qui s'occupe d'elle quand elle est en France ici. Et on se voit régulièrement ici, et même quand elle part en Algérie. Voilà. Le jour où ça s'est passé, on s'est vu de 1h à 15h. On était ensemble, elle n'était pas bien. Puis, bon, d'habitude, je la raccompagne chez elle ici, elle ne voulait pas.
Oui.
Voilà.
À 16h, elle a dit je ne rentre pas à la maison. Et là, elle est venue vers moi.
Elle est partie au centre-bourg, j'ai laissé à Paul. Et on devait se revoir à 19h pour manger ensemble. Et à 19h, je l'ai appelée. Deux fois, trois fois, elle ne m'a pas répondu. Au bout de la troisième fois, elle m'a répondu. Et elle pleurait. Elle m'a dit, appelle les pompiers. Et du coup, je n'ai rien compris. On m'a frappée. J'ai dit, passe-moi Najia. Elle m'a passé Najia. Et de là, j'ai compris. J'ai appelé les pompiers. Ils ne voulaient pas venir sur place parce que...
La route, elle était...
Voilà. J'ai crié un petit peu. J'ai dit, la dame, elle est en train de mourir. On m'a demandé son numéro pour l'appeler. Et de là, ils ont appelé... Je t'ai dit... de lui dire qu'elle décroche.
Elle a parlé avec l'ambulancier, qu'est-ce qu'elle doit faire, où est-ce que vous avez mal. Et elle a dit, voilà, j'ai une bande crémogène sur mon visage. J'étais en train de fermer la fenêtre. Elle lui a dit, tenez le coup, on arrive tout de suite. Et elle était trempée de sang, coulait.
On l'a transportée à l'hôpital vers 20h, 20h30. Ouais. À 22h, je l'ai rejoint et je suis restée avec elle jusqu'à 3h du matin. J'attendais le chirurgien pour me dire, parce qu'on m'a dit que possible de faire une opération. Il n'est pas venu, je suis rentrée chez moi. Et le matin, on m'a appelée. Elle a été transférée à 4h du matin à l'hôpital de la Conception. Et on était partis ensemble. Là, j'étais venue ici récupérer les clés et tout.
Ses vêtements.
On est parti à 1h. À
1h. Non, non. 11h30, on était à la conception.
On est resté avec elle, ça devait se faire à 1h30. Ils sont restés jusqu'à 14h. Elle parlait parfaitement, elle racontait. Je lui ai passé tous ses enfants en Algérie. Oui. Elle leur a parlé un par un. Hein? Oui. J'ai l'aidé quand même de...
Oui, heureusement, les trois filles, deux garçons, ils ont parlé avec elle.
Elle a parlé à tous ses enfants.
Elle nous a dit que dès que je sors de la salle de réanimation, je vous trouve ici dans la pièce. Dans ma chambre, on lui a dit, il ne faut pas s'inquiéter.
Ça devait, l'opération, ça devait durer 1h à 2h. Et 2h en salle de réveil. À 15h30, Khadija était avec moi, Léo. On était en bas, l'infirmière elle est venue me chercher. Et elle m'a dit, le chirurgien vous cherche.
Vous venez d'entendre des témoignages, des archives de 2018 à propos de la mort de Zineb Redouane. Donc ce sont les voisines et les amis de Zineb Redouane qui témoignent quelques jours après sa mort. De ce qu'elles ont vécu. Et en ce moment même se tient une manifestation qui est au Vieux-Port et donc dont on entend des extraits tout de suite là en fait en quasi direct. Et donc on va rejoindre aussi une personne de Radio Galère, une animatrice de Radio Galère et de Ayoli Radio à Avignon, sur radio sur laquelle nous sommes en direct également actuellement, qui est en direct dans le cortège, dans la manifestation marseillaise en hommage à Zineb. Une journée d'hommage aux victimes des violences policières et contre toutes les formes de violences d'État, violences policières y compris, aujourd'hui jusqu'à 18h sur Radio Galère.
On est en train de pleurer nos proches. Entendez-vous les gens. Jusqu'à quand vous allez réagir? Jusqu'à quand vous allez parler des yeux? Jusqu'à quand vous allez nous punir?
les cris réclamant la justice, et c'était il y a quelques minutes à peine dans le cortège de la manifestation pour la vérité et la justice, et en hommage à Zineb Redouane. Tout de suite, on écoute l'hommage qui avait eu lieu quelques jours, deux jours après sa mort en bas de son immeuble. On écoute ça tout de suite, une archive.
Le seul message qu'on envoie, c'est que même s'il n'y avait pas cette famille de sang ici, nous tous les Marseillais, on est cette famille de cœur. Et on ne laissera pas passer ça. Et on demandera des comptes au préfet de police, et au procureur, et à l'enquête, pour qu'elle ne soit pas morte pour rien, Inch'Allah. Et que les assassins de cette dame soient punis. C'est tout.
Bon, bonjour. J'ai juste un petit message, comme ça. Je suis un voisin, simplement. C'est par rapport aux violences policières. Des violences complètement démesurées. Des violences qu'on a vues s'installer dès le 1er décembre, où un nombre incroyable de gaz lacrymogènes ont été jetés sur des manifestants, et où Zineb a été visé par un CRS qui lui a lancé une grenade lacrymogène en pleine face et dont elle est morte.
Au quatrième étage.
Elle est morte des suites de cette grenade lacrymogène et non pas d'un arrêt respiratoire, comme certains le disent, comme le procureur, comme on le disait avant pour Adama Traoré, qui a été tué de la même façon par la police et à qui on a dit simplement que c'était un arrêt cardiaque. Donc, cette foutaise, ça suffit. Et on voit les violences policières aujourd'hui qui s'étendent avec nos minots. Tous les jours, nos minots sont matraqués, se font tirer des flashballs contre eux. C'est une situation absolument insupportable. Et donc, je tiens à rendre hommage à Zineb, qui a été tuée par la police. Et il faut le dire, elle a été tuée par la police.
Son d'archives de 2018, quelques jours après la mort de Zineb lors de l'hommage.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Personne peut, personne à le remettre de la mort. Personne ne peut le remettre de la mort. Mais pour l'instant, bah, ces policiers-là, bah, ils sont tranquilles. Eux, ils rentrent chez eux. Ils voient leurs femmes et leurs enfants. Les policiers continuent dans nos quartiers, ils nous insultent. Ils essayent de nous pousser à qu'on fasse des outrages. Mais on a compris ça, on leur donne plus le temps. La police aujourd'hui se permet de tuer.
Ce samedi 4 novembre, rendez-vous à 16h au Vieux-Port pour une manifestation en hommage à Zineb Redouane, 3 ans après sa mort. Et dès 14h, sur les ondes de Radio Galère et Ayoli Radio à Avignon, pour un après-midi spécial sur le thème des violences policières, des violences d'État, et en hommage à Zineb et Souheil. C'est samedi à partir de 14h sur les ondes de Radio Galère. Et voilà, et donc depuis 14h, nous sommes en direct sur Radio Galère et Radio Ayoli à Avignon. Et tout de suite, on est en direct avec le cortège. Allô, est-ce que tu nous entends ?
Oui, je vous entends.
Super, et ben nous, on t'entend aussi. C'est un petit peu faible, on va essayer de monter un petit peu le son. Donc du coup, tu es en direct dans la manif, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. La manif a commencé à 16h et du coup, qui est partie direct à 16h.
Ok.
Et là, on est en train de remonter la Canjère et on a dépassé le Courlioteau. On remonte vers les réformés, quoi.
Ok, est-ce que tu peux nous dire, il y a un peu de monde, on a entendu un peu des prises de son que tu nous as envoyées là, il y a quelques minutes.
Ouais, il y a un peu de monde, je pense, peut-être un petit millier de personnes.
Ok.
Voilà, il y a pas mal de proches de victimes de violences policières. Tout à l'heure, on entendait... la compagne, je crois, de Mohamed. Et il y avait voilà, il y a plusieurs banderoles, plusieurs groupes, comités de soutien.
Ok.
Et tout le monde sous le slogan de « Ni oubli ni pardon » et « Nous sommes tous ces enfants de Zineb ».
Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a eu des prises de parole peut-être au Vieux-Port ou ça sera peut-être plus tard? Tu as une idée du déroulé?
Non, je sais pas trop. J'ai pas vu les prises de parole. C'est que ça a démarré hyper vite au Vieux-Port. Je sais pas s'il y a eu des prises de parole avant 16h.
D'accord.
Mais à 16h pile, la manif était en route.
En tout cas, si vous voulez rejoindre la manifestation, c'est actuellement, vous êtes sur la Canebière, c'est ça? Vous allez dépasser le cours Lyoto, direction Réformée, j'imagine?
Ouais, c'est exactement ça.
D'accord. Et bah, tu veux nous faire entendre un petit peu le bruit de la manif?
Ouais.
Est-ce que tu peux te rapprocher un petit peu?
Ouais, j'essaye de me rapprocher du bruit et des slogans.
Qu'on entende un petit peu ce qui se passe. Manif donc en hommage à Zineb Redouane contre les violences policières pour la vérité et la justice. Vérité et justice pour Zineb, vérité et justice pour Souhel, en direct aujourd'hui, nous sommes en direct de la manifestation qui est en train de remonter la Canebière. Si vous voulez la rejoindre, il est encore temps de la rejoindre vers Réformée, et on est jusqu'à 18h pour parler ici, pour parler justement des violences policières et des affaires Zineb et Souhel et de toutes les personnes qui sont mortes sous les coups de la police. On écoute encore un petit peu la manifestation en arrière-plan. Ok, bah merci à toi. Peut-être on se retrouvera dans l'après-midi pour essayer de rejoindre un petit peu la manifestation. S'il y a des prises de parole, peut-être qu'on peut essayer de se rappeler à ce moment-là. Qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, ça marche. On essaie de se rappeler plus tard.
Ok, ça marche. Et ben, rejoignez la manifestation. Nous, notre programme va continuer. On se fait une petite pause musicale. Vous êtes sur Radio Galère et Aioli Radio.
Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigatiere apri un po' la finestra, una spinta e Pinelli va giù. Sul questore io ve l'ho già detto, lo ripeto che sono innocente, anarchia non vuol dire bombe, ma uguaglianza nella libertà. Poche storie confessa Pinelli, c'è il tuo amico Valpreda ha parlato, è l'autore di questo attentato, ed il complice certo sei tu. Impossibile, grida Pinelli, un compagno non può averlo fatto, e l'autore di questo delitto, tra i padroni bisogna cercare. Stai attento, indiziato Pinelli, questa stanza è già piena di fumo, se insisti aprian la finestra, quattro piani son duri da fa. C'è una bara e 3000 compagni, stringevamo le nostre bandiere, quella sera l'abbiamo giurato, non finisce di certo così. E tu guida e tu calabresi, se un compagno è stato ammazzato per coprire una strage di Stato, questa lotta più dura sarà. Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigatiere apri un po' la finestra, una spinta e Pinelli va giù.
4 heures de radio contre les violences policières, jusqu'à 18h sur Radio Galère et Aïoli Radio.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Galère 88.4 à Marseille et Aïoli Radio en RNT à Avignon. On était en direct depuis la manif et on va rejoindre, puisque d'autres événements ont eu lieu ces derniers jours en hommage à Zineb Redouane. Et donc on va écouter un extrait de l'hommage et du rassemblement qui s'est tenu avant-hier sur la Canebière. C'était aux 12 rue des Feuillants et donc on y était avec nos micros pour entendre la lettre des enfants de Zineb Redouane.
En marge d'une manifestation suite à l'éboulement des immeubles de la rue d'Aubagne. Elle était chez sa voisine du dessous. Au moment où la manifestation passait sur la Canebière. Et à ce moment-là, elle a senti déjà les gaz qui montaient. Prévenue par sa voisine, elle est venue dans son appartement. Elle a monté un étage pour aller dans son appartement, fermer les volets, fermer la fenêtre. Elle a jeté un œil par la fenêtre pour voir ce qui se passait dans la rue. Et c'est à ce moment précis qu'elle a vu le tireur qui la visait, qui était un agent de la police anti-émeute, qui se trouvait sur le trottoir de l'autre côté de la rue, en tout cas au niveau de la voie de tram, et qui en fait l'a très distinctement visé, au point qu'elle l'a elle-même remarqué. Elle en a elle-même témoigné avec ses propres mots en disant: il m'a visé. Elle l'a reconnu, identifié. Dans le dossier judiciaire, elle le décrit. Elle décrit sa position. Elle a été touchée au visage et au torse, certainement par un rebond de la grenade qui lui arrivait d'abord dans le torse pour lui rebondir ensuite dans la joue et qui lui a fracturé une partie des os du visage. Blessure qui entraînera son décès le lendemain, un peu après 22h, à l'hôpital de la Timone. Donc comme chaque année, depuis 3 ans, les Marseillais et Marseillaises organisent un moment de commémoration sur le week-end qui entoure le 1er et le 2 décembre. Je prends la parole ici à la demande de Milfet, Riyad et Isma Redouane, 3 des enfants de Zineb Redouane, que je remercie pour leur confiance et à qui j'adresse tout mon soutien et mes vœux de sérénité. Zineb Redouane est née à Tunis, d'un père algérien et d'une mère turque, qui se sont rencontrés en Syrie. Avec son mari, imprimeur à Alger, elle est venue à Paris dans les années 80, puis ils se sont installés à Marseille. À Paris, ils avaient une librairie. Puis à Marseille, ils tenaient l'hôtel Beau Séjour sur le Vieux-Port et l'hôtel Rex près de la gare Saint-Charles. Pendant 2 décennies, le monde entier se croisait chez les Redouane. Puis elle est restée seule, dans son appartement de la rue des Feuillants, au croisement de la Canebière. Seule, mais jamais sans ses amis, et notamment Imen Souhamès, qui sera là jusqu'à son dernier soleil. Zineb Redouane, que son nom résonne dans nos consciences, était la croisée des chemins et des routes, le confluent des rivières et des mers. Elle était Marseille. Marseille du mélange, Marseille du tumulte, Marseille de la vie. Oui, Zineb Redouane était la vie. Elle avait 6 enfants. Zineb Redouane était notre mère, elle était notre grand-mère. Elle a été le sourire de ses petits-enfants, elle aurait pu être celui de notre grand-mère à toutes. Zineb Redouane souriait comme le soleil et vivait comme la paix. Le 1er décembre 2018, la guerre est entrée par sa fenêtre, sous la forme d'une grenade, la frappant au visage. Le lendemain de sa blessure, Zineb Redouane est parti dans la soirée, peu après 22h. Elle a quitté Marseille, elle a quitté la vie, mais elle n'a pas quitté nos esprits et nos cœurs. Zineb Redouane était le contraire de Macron et de Castaner, le contraire de la guerre. Elle était la vie, et s'ils sont dans un autre camp, alors c'est qu'ils sont dans le camp de la mort. Depuis que notre mère est partie, la France de Macron s'est enfoncée chaque jour un peu plus dans la violence et le déni des crimes commis par ses forces armées. La mort de Zineb Redouane, elle-même, n'a fait l'objet que de déni et de mensonges, d'impunité et d'injustice. Zineb Redouane, dans ces quelques minutes qui ont scellé sa vie et les nôtres, a regardé son assassin dans les yeux. Leurs regards se sont croisés, elle l'a vu la viser. Son témoignage devrait constituer l'ultime des preuves, mais même l'évidence et l'incontestable sont devenus dénis dans cette période de confusion et de révisionnisme. Ceux qui ont aujourd'hui le monopole de la vérité n'incarnent que le mépris, le cynisme et la honte. Leurs mensonges nous blessent autant que leurs grenades. Mais au-delà des douleurs et des traumatismes, nous gardons la foi dans la vérité et nous continuons le combat avec détermination et dans la dignité. Les assassins et les menteurs seront révélés par l'histoire. C'est pourquoi nous exigeons des policiers et des politiciens qu'ils cessent tout à fait de s'en mêler, de se placer au-dessus de la justice et qu'ils s'écartent enfin de nos chemins pour que la paix l'emporte sur l'injustice et la guerre qu'ils alimentent chaque jour comme si leur vie en dépendait. Milfet, Riyad et Isma vous remercient du fond du cœur d'avoir mis leur mère au centre de votre combat pour la vie. Pour Zineb Redouane, qu'elle repose en paix. Mars 2019, comme vous le savez peut-être, les quatre enfants, parce que l'une des quatre est décédée l'année dernière, mais quatre enfants de Zineb ont désigné Yassine Bouzrou comme avocat, et c'est là que l'affaire judiciaire a commencé. L'enquête, en réalité, dans cet appartement, elle a duré 2 jours. Les scellés ont été placés et l'appartement n'avait jamais été réouvert. Il n'y a pas eu d'enquête complémentaire. La police judiciaire est venue une fois et elle n'est jamais revenue. En début janvier 2020, les scellés ont été brisés par des personnes inconnues. Des personnes se sont introduites dans l'appartement sans qu'on sache qui c'est. Et toutes les affaires de la famille, tous les documents personnels, tous les meubles, absolument l'intégralité des affaires qui étaient dans cet appartement ont disparu. Ça, c'est quelque chose dont on est peu au courant. Quelques mois plus tard, après le confinement, l'appart a été reloué totalement illégalement. Aujourd'hui, il y a une personne qui vit. Pourquoi illégalement ? C'est parce que quand il y a des scellés judiciaires, normalement, personne ne peut accéder à l'appartement. Mais ils ont profité du fait que les scellés avaient été brisés, en disant qu'on ne savait pas qui c'était, pour pouvoir réinvestir l'appartement et faire disparaître des affaires qui pouvaient être des éléments importants et qui, dans tout état de cause, sont des éléments importants pour la famille, si ce n'est pour la vérité judiciaire et la vérité tout court. En tout cas, l'affaire elle-même, elle a pas beaucoup avancé. Elle a toujours pas été ni jugée, ni classée. Il y a eu des éléments complémentaires, il y a eu des éléments d'enquête. Le procureur adjoint qui était présent auprès des CRS ce soir-là a été auditionné. A priori, le policier a été identifié. A priori, il n'y a aucun mystère sur qui il est. Le mystère, il est que pour nous. Nous tous. Même la famille ne sait pas qui est ce policier. Mais pourtant, quelqu'un sait qui c'est, puisque le directeur de la police nationale, récemment, a décidé qu'il n'y avait pas besoin de le sanctionner. On ne sanctionne pas une personne. On ne décide pas l'absence ou la présence de sanctions pour une personne qui n'existe pas. Donc s'ils décident de ne pas le sanctionner, c'est qu'ils savent bien qui c'est. Mais qu'il y a une omerta sur la question, il y a un secret autour de cette question. Il y a beaucoup de secrets autour de cette question. L'IGPN n'a pas mené l'enquête comme elle aurait pu, comme elle aurait dû. Notamment les armes du crime. Ce soir-là, il y en avait 5 potentiellement. Une de ces 5-là est l'arme qui a tué Zineb Redouane. C'est 5 lanceurs de grenades. Et les policiers, les CRS, donc c'était les CRS Saint-Etienne, la CRS 50 qui était là ce soir-là, si tant est que c'est vraiment un CRS qui l'a fait. En tout cas, si c'est bien un CRS qui a tué Zineb Redouane, il a été couvert par sa hiérarchie, il a été couvert par Castaner lui-même, puisque l'équipe de CRS, l'unité de CRS, la compagnie de CRS, pardon, a tout simplement refusé de laisser expertiser les armes par l'IGPN, en prétendant qu'ils en avaient trop besoin dans le contexte actuel. Et donc ces armes n'ont jamais été expertisées. Si on n'expertise pas les armes, on ne peut pas savoir qui est le tireur. Il y a beaucoup d'autres silences autour de cette affaire, qui aurait dû être un scandale d'État. On est devant un crime très particulier. Certes, un crime policier comme il y en a des dizaines désormais chaque année, 28 par an en réalité, entre 24 et 28 par an. Mais ce crime-là, il est particulier parce qu'il s'agit d'une personne âgée à sa fenêtre, donc pas dans l'espace public, pas dans la rue, dans son espace privé, à sa fenêtre, qui n'avait rien à voir avec ce qui se passait dans la rue, qui n'avait rien à voir avec l'intervention policière et qui a été visée et tuée malgré tout. Donc on est dans un cas très particulier. Autre chose, pour préciser le tir, le tireur était à peu près au niveau de l'avant du tram là-bas, qui est à l'arrêt. Et il a tiré dans cette direction, prétendant qu'il visait des gens là-bas. L'incohérence est tellement énorme qu'on ne peut pas y croire. Et pourtant, la vérité judiciaire, donc la vérité officielle, dit que le tir est régulier. Pour ceux qui ont un minimum de décence, d'esprit et d'esprit critique, comprendront que quand on tire sur une façade ici, c'est pas pour toucher les gens qui sont dans cette rue. Sauf dans un cas particulier, et c'est une pratique qui a lieu régulièrement dans les quartiers populaires, c'est le tir de façade. Quand on a un angle mort, il faut s'imaginer que là où vous êtes, il y avait un chantier, il y avait des barrières de chantier, et donc il n'y avait aucune visibilité sur la rue. Donc le policier a pris l'initiative de taper la façade pour faire rebondir la cartouche lacrymogène sur cette rue.
Hommage aux victimes de la police jusqu'à 18h sur Radio Galère et Aïoli Radio.
Vous écoutez Radio Galère ou Aïoli Radio à Avignon. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous venez d'entendre des témoignages, en tout cas une lettre qui a été lue, puis des explications sur la mort de Zineb Redouane. Et ces explications et cette lecture ont eu lieu il y a 2 jours au pied de l'immeuble où Zineb Redouane a été assassiné. Voilà maintenant 3 ans quasiment jour pour jour. C'était le 1er décembre 2018. Aujourd'hui se tient une manifestation en hommage à Zineb Redouane. Elle est actuellement en train de parvenir à la plaine depuis les réformés. Donc si vous voulez la rejoindre, c'est par là-bas que ça se passe. On aura l'occasion d'y retourner en direct. Peut-être y a Aziz qui vient nous rejoindre en studio. Tu peux mettre peut-être un casque pour que tu puisses m'entendre quand ton micro sera ouvert. Aziz, peut-être tu peux te présenter aux auditeurs de Radio Galère qui sont habitués à t'entendre normalement, mais peut-être certains nous rejoignent aujourd'hui pour l'émission spéciale. Bonjour.
Oui, bonjour Clément, merci. Hein, merci de cette initiative parce que c'est vraiment à contre-courant, comme Radio Galère qui rame à contre-courant. Donc finalement, cette initiative est plus que nécessaire. Et c'est même vital. Pourquoi vital? Parce que... Écoute, les familles qui se retrouvent dans l'isolement, dans le désarroi après la disparition ou bien la mort injuste par le biais de la police ou bien d'un crime raciste, quand elles se retrouvent dans l'isolement, dans un isolement total et dans le déni, comme on l'entend dans ces reportages-là, y a la colère qui monte. Et cette colère-là, un jour, elle va s'exploser. Les gens vont devenir des démons. Hein. Et ça, le fait, par exemple, le fait de multiplier ce genre d'initiatives et de rappeler à l'ordre, de rappeler à ceux qui tentent d'imposer une certaine amnésie, de rappeler que qu'il y a un dénominateur commun avec, sur l'ensemble de ce qu'on appelle des violences policières sur les personnes, les victimes. Il y a un dénominateur commun, c'est l'impunité. Et cette impunité-là fait augmenter cette colère-là. Et c'est pour ça qu'il faut d'une urgence, il est urgent de trouver des solutions. Il est urgent d'entendre ces échos-là et d'entendre ces colères-là. Parce que sinon, ça ne peut plus durer. Ce qui se passe actuellement aux États-Unis nous renseigne beaucoup sur l'état d'exaspération devant tant d'injustices.
Mais d'ailleurs les médias français aiment beaucoup couvrir les mouvements de contestation contre les crimes policiers aux États-Unis, mais le fait beaucoup moins concernant les crimes policiers qui se passent en France. Exactement. Parce qu'en fait ils sont nombreux. On en parlait à l'instant il y a quelques secondes. Tu parlais d'Ali Ziri dont on a entendu des témoignages de proches tout à l'heure. On parlait de Souhel qui est mort il y a 4 mois. À 100 mètres des studios de Radio Galère qui s'est fait tuer par balle par un policier marseillais lors d'un simple contrôle policier où il n'y avait eu aucune violence, uniquement un délit de fuite, et pour ça on assassine des gens d'une balle en plein cœur. Mais qui sont ces gens? Qui sont ces gens? À chaque fois, quand on fait la liste des prénoms, on fait la liste des prénoms, allons-y, Zineb, Babacar, Ali, Wissam, Bouna, Youssef, c'est qui ces gens? Oui. Donc on parle encore, c'est toujours des histoires de racisme, de colonialisme, et on tire beaucoup plus facilement dans un conducteur qui fait un délit de fuite à la Belle de Mai qu'un conducteur qui fait un délit de fuite au Roucas Blanc ou sur le Prado. C'est aussi que ça fait système, c'est aussi que cette impunité et ces mensonges d'État, ils sont systémiques, ils sont systématiques dans toutes les affaires qui concernent les violences policières sur des Noirs ou sur des Arabes. C'est sur des Blancs, si c'est des militants écologistes, on utilise les mêmes principes.
Et si tu permets, sur cette affaire d'Ali Ziri, Ali Ziri, c'était un vieux monsieur là, qui est à la retraite, qui habite dans un foyer. Et Ali Ziri, à cette époque-là, au mois de juin 2009, préparait le mariage d'un de ses fils en Algérie. Hein, préparer un mariage. Il était, il y a une tradition qui fait qu'on lui téléphone, on lui dit achète ceci, achète cela, etc. Il allait venir dans des marchés, etc. Le jour où il a tout fini, ça veut dire qu'il a fini, il était prêt de rentrer au pays avec tout le nécessaire. Il a envie de faire ce qu'on appelle une petite soirée avec ses amis dans un bistrot dans Argenteuil. Et là, il y a eu, donc ils ont un peu bu, etc. En sortant, et il s'est passé ce qui s'est passé là, c'est-à-dire qu'il a été écrasé à l'intérieur du commissariat. Et qu'est-ce qui s'est passé après? La famille attendait son arrivée vers le 13, lui, il est mort le 11. Ils attendaient sa venue vers le 13 parce qu'il va y voir la famille. Et quand la famille là-bas, il y a eu la terrible nouvelle, le garçon qui allait se marier a reçu un choc. Il est sur un fauteuil actuellement. Il est handicapé. C'est un garçon de 23 ans à l'époque. Hein.
Le fils d'Ali Ziri.
Le fils d'Ali Ziri qui allait se marier est handicapé. Donc du fait de ce qui s'est passé, on attendait ce qu'on appelle le papa qui allait venir assister au mariage de son fils. Et tout d'un coup, il reçoit un cercueil. Et c'est terrible comme histoire, par exemple, pour te dire.
Ouais. Et puis on entendait le témoignage tout à l'heure. Et c'est vrai que ça fait écho à toutes les autres situations et tous les autres crimes policiers. C'est à chaque fois la même, et puis ensuite les mêmes mécaniques de mensonges. Ali Ziri, il a été dit qu'il était cardiaque, etc. Alors
qu'on lui a brisé les côtes, ça veut dire que la policière ou le policier qui lui a mis le pied sur sa nuque lui a brisé carrément la colonne vertébrale.
De la même manière que George Floyd, de la même manière qu'Adama Traoré.
Qu'Adama Traoré, de Lamine Diagne, etc. Le jeune, ce qu'on appelle le jeune Amine Bentounsi, le frère d'Amal, et quand il est mort, la balle dans le dos, c'est-à-dire comme dans le dos. Et quand on a créé l'association qui s'appelle SOS, Notre Police Assassine, Amal Bentounsi a été esté en justice pour, parce qu'elle elle fait dans la diffamation, elle fait dans la provocation contre la police. Le fait de dire la police assassine, et ça c'est terrible.
Et c'est dangereux de demander la vérité. Et je tiens à saluer ici le courage de Hissam qui est venu parler tout à l'heure, qu'on a entendu longuement sur la mort de son fils et qui demande la vérité, la justice, qui organise des marches blanches et des journées, des week-ends entiers sur le thème de la vérité. Et lui-même met en avant ses mensonges policiers, ses mensonges d'État, ses mensonges des procureurs qui couvrent la police, ces syndicats policiers qui couvrent leurs collègues sur des actes criminels comme ceci. Et ben, le courage d'un père pour la vérité, mais il n'a pas d'autre choix, comme il le dit. Il se réveille tous les matins en réalisant que son fils est mort et il lui faut la vérité. Et bien, cette vérité-là, elle doit être arrachée, et c'est des combats tous les jours. Et aujourd'hui, il y a un combat qui se poursuit dans la rue. Vous pouvez rejoindre la manifestation qui a dû arriver à la Plaine. On a eu quelques nouvelles il y a quelques minutes. On la rejoindra en direct avec notre animatrice qui est en direct dans la rue. On va se faire une petite pause musicale et on entendra juste après le témoignage de Bouna Traoré, enfin en lien avec la mort de Bouna Traoré. Vous vous souvenez probablement, c'était avant les émeutes en 2005, deux jeunes étaient morts, Zied et Bouna, et qui étaient morts en région parisienne. Je me souviens plus du lieu précis.
À Fontenay-sous-Bois.
À Fontenay-sous-Bois, merci beaucoup. Merci beaucoup de me souffler. À Fontenay-sous-Bois, et donc son frère témoigne, et c'était un témoignage de 2015 proposé par Fréquence Paris Pluriel, l'actualité des luttes. On fait une petite pause musicale, vous êtes en direct sur Radio Galère jusqu'à 18h pour cette émission spéciale. Uncle motherfucking fuckers, yeah.
Pourri comme un membre de la BAC Nord qui déboule dans ton check, c'est tir au flashball. Devant ta mère normale, ils t'insultent et mort. Calibre à la taille, ils font les cow-boys. Et l'OPJ te fait la fouille au corps. En retard ou pas pour le taf, la fac ou l'école. Brassard orange sur le torse, en mode training day cops. Prise en charge sans crosse, Giro, tu goûtes le pare-choc. Et les petits font TP, oui on vous emmerde. On vous aime pas, parce qu'on voit la BAC tous les soirs, abusé de ses droits. Manifestant, perd son oeil, jeune de cité, perd la voix. Pointeur, violeur, politicien, c'est des voleurs et on les calcule. Fuck la police, fuck le G7. Fuck la douane, volant de gaufre sur la A7. Ton salaire annuel, je le touche en showcase. Je passe en correctionnel, j'ai vu ce qu'il les assiette. J'ai dit fuck la police, fuck le G7. Fuck la douane, volant de gaufre sur la A7. Ton salaire annuel, je le touche en showcase. Je passe en correctionnel, j'ai vu ce qu'il les assiette.
Frère de Bouna Traoré et voisin de Zied Bénin et de Mutinatun. Bouna Traoré est mon petit frère. Zied Bénin, c'est mon voisin, ami de Bouna.
Témoignage de 2015.
Ainsi que Mutinatun. C'est des voisins qui habitaient dans le même quartier que nous. Et c'est comme des petits frères. C'est un peu la même chose.
Vous habitiez où ?
À Clichy-sous-Bois, à La Palma exactement. Zied, il habitait au Chêne Pointu avec Mutine, mais en fait Clichy c'est tout petit, c'est un genre de village et tout le monde se connaît.
L'actualité des luttes, Bouna Traoré, son assassinat en 2005.
En fait, en 2005, ce qui s'est passé, c'est que moi en fait j'étais au travail, j'étais en formation et j'ai reçu un coup de fil de ma mère qui cherchait mon petit frère. Parce que, comme on l'a dit, c'était en période de ramadan. C'est-à-dire qu'à l'heure de couper le ramadan, on cherchait les enfants. C'est normal, c'était pour couper le ramadan et pour se rassembler et manger ensemble. Donc elle s'inquiétait, elle cherchait, elle m'a appelé au travail, elle m'a demandé si je l'avais vu la journée. Je lui ai dit que non, je ne l'avais pas vu. Et puis, juste après cet appel, je reçois un autre coup de fil d'un ami qui me dit qu'en fait, il a entendu que mon petit frère avait fait un accident. Donc moi je me dis que un accident, je savais qu'il faisait beaucoup de vélo en fait, il faisait beaucoup de roues en vélo. Je me disais qu'il était tombé en vélo et que voilà, c'était rien de grave, rien de plus. Donc à ce moment-là, moi je rentre directement sur Clichy. Et là en fait sur la route, je vois plein de pompiers, SAMU, la police, etc. Et là en fait je me demande si c'est pour eux en fait. Et là, en fait tout part de là. Donc là je rentre chez moi. Et puis après je repars sur le site avec mon grand frère Saka. Et là en fait on découvre que voilà, il y a deux petits qui sont sur le site. Mais enfin on sait, en fait on sait pas qui c'est ces petits. C'est-à-dire que pendant une heure on est devant le site et on n'a pas de nouvelles.
Le site EDF.
C'est-à-dire qu'on est là et nous on nous dit juste qu'il y a deux petits qui sont à l'intérieur. Mais on ne sait pas c'est qui. Parce qu'en fait, sur la course poursuite, ils étaient 10. Donc sur les 10, pour savoir exactement à ce moment-là qui est à l'intérieur, ça, c'était un peu compliqué. Donc voilà, après, ça commençait de là, c'était de l'attente. C'est-à-dire qu'on attendait, on attendait, jusqu'au moment où voilà, ils sont venus nous voir pour nous dire que c'était évidemment nos petits frères et son ami Ziet. À partir de ce moment-là, bah, quand vous voyez vos parents pleurer, les gens pleurer autour de vous, à ce moment-là, tout tombe, quoi. C'est-à-dire que c'est. Il n'y a plus d'issue. On commence à y croire et. Voilà. À partir de là, bah, on se rend compte que vraiment, on vient de perdre des gens. Et des gens qu'on aimait, à qui on tenait beaucoup. Moi, je voulais rajouter aussi que le petit Ziad aussi, Ziad Bena, c'était comme un petit frère. Parce que tous les jours, il était avec mon frère. Donc, voilà, j'étais touché par les deux décès, c'est-à-dire que le décès de mon petit frère et le décès de Ziad, c'était la même chose. C'est-à-dire que c'était encore deux fois plus de mal à accepter. Voilà, un moment très difficile, très dur. Et puis après, c'était que du dégoût, quoi, parce que en fait, je me rends compte que nous, on a perdu des gens, et sur ces gens-là, on veut leur mettre, on veut leur coller une étiquette. C'est-à-dire que les gens, ils n'existent même plus. Et malgré ça, on veut faire passer le message comme quoi c'était des voleurs, des cambrioleurs. Et c'est de là que tout est parti. Et après, ça suivait avec les émeutes. Et je tenais à dire aussi, en fait, que les émeutes, ce n'est pas un truc qu'on a voulu, nous, les familles. Nous, les familles, on a toujours appelé au calme. On a toujours essayé de calmer les gens, de ne pas s'exprimer de cette manière-là, en fait. Mais après, voilà, c'était une histoire qui a touché un peu tout le monde, dans la France ou ailleurs. Et à partir de ce moment-là, nous, on ne peut pas contrôler les gens. Nous, on est déjà dans un truc où là, on vient de perdre des enfants. On ne peut pas s'occuper des gens. C'est-à-dire qu'on peut juste appeler au calme, mais on ne pouvait pas faire plus à ce moment-là. On voulait en savoir plus sur les circonstances, sur comment ça s'est passé. On était plus préoccupés par ça que s'occuper des gens dans la rue, des gens qui brûlaient les voitures, etc. Après, c'était... je sais pas si je pourrais dire que c'était une bonne chose. Mais voilà, les gens, ils se sont exprimés de leur manière. Et nous aussi, on s'exprimait de notre manière. On n'avait pas cette énergie, en fait. On pouvait juste descendre dans la rue, appeler au calme. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'on a toujours fait jusqu'à présent. Et toujours après les faits, nous, on s'est mobilisé pour en savoir plus. Et pour en savoir plus, il fallait passer par là. Il fallait demander à que tout soit éclairci. Quand le lendemain, on voit à la télé que ouais, c'était des petits qui voulaient cambrioler, qui cherchaient à courir parce qu'ils ont volé. Voilà. Vous avez deux versions. Maintenant, on voulait savoir la vérité et on a commencé le combat.
La manifestation en hommage à Zineb est arrivée à Notre-Dame-du-Mont. Vous pouvez la rejoindre, évidemment.
10 ans, c'est long. Hein. 10 ans, on a le temps de faire des enfants. C'est quand même longtemps, de 2005 à 2015 pour un procès. Je trouve que quand même c'est long. Et il faut savoir qu'entre temps, il y a eu plein de choses, il s'est passé plein de choses. Il y a eu des non-lieux. Et voilà, on avait l'impression en fait qu'il voulait nous endormir ou étouffer cette histoire pour qu'on n'en reparle plus. Mais bon, après nous, c'était notre combat de tous les jours. On a voulu montrer un exemple aussi pour les autres familles ou d'autres personnes qui peuvent être dans le même cas que nous. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est des choses qui se passent tous les jours, ça. En fait, on est concentré sur cette histoire parce que c'est une histoire qui a touché beaucoup de monde, qui a touché beaucoup de personnes et qui a un peu secoué les choses, c'est-à-dire que ça a un peu bougé le pays. Et puis après, voilà, tout le monde s'est réveillé en se disant, voilà, on va arrêter de... On va plus se laisser faire, on va s'exprimer, et on va aller jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire, on va essayer de savoir la vérité. Après, on a toujours gardé notre calme, on a essayé de montrer la bonne image, de pas s'enflammer, pas crier. Et c'était quelque chose de très compliqué en fait, le procès. Ça a duré une semaine, c'était lourd, c'était tendu. Ça faisait quand même 10 ans qu'on attendait. Après, sur le procès, dans la globalité, tout ce que je peux vous... La seule satisfaction que j'ai aujourd'hui, c'est que on a pu quand même déterminer qu'ils n'étaient pas en train de cambrioler. Ça, c'est quand même une chose. C'est quand même un point très très important, parce que c'est ce qu'on nous avait dit à l'époque, c'est ce qu'ils avaient dit à la télé. Donc les gens, forcément, je ne peux pas dire que tout le monde y a cru, mais voilà, je ne peux pas savoir comment les gens réfléchissent et tout. Donc ce point-là, franchement, c'était un bon point pour moi. Pour moi et ma famille. Donc, pour l'instant, c'est la seule chose que je peux vous dire. Après, le reste, c'est compliqué, en fait. De revivre ça, en fait, c'était compliqué. C'était très dur, c'était pas facile. Moi, j'étais avec mes parents, je voyais ma mère à côté de moi. Des fois, elle comprenait. C'est-à-dire qu'elle ne parle pas bien français. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'elle comprenait, des choses que je lui expliquais. Et je peux vous dire que même elle avait du mal à encaisser tout ça. C'était très, très compliqué. Et franchement, après tout ce que j'ai entendu, je suis pas un juge. C'est-à-dire que je ne peux pas me mettre à leur place. Et leur mettre des sanctions ou quoi, mais après tout ce que j'ai entendu dans le procès, c'est-à-dire que à partir du moment où l'agent, il le dit bien à la radio, qu'il a repéré les enfants qui sont en train de rentrer sur le site, le danger est imminent. C'est-à-dire que après tout ça, on ne peut pas dire qu'on n'était pas conscient de ce qui se passait. Quand il dit à sa collègue, s'il rentre sur le site, je donne pas cher de leur peau, ça veut tout dire. C'est une phrase, en fait, qui veut tout dire. Donc, moi, la procureure, franchement, j'ai pas compris. Le jour-là, j'ai pas compris. J'ai pris un gros coup sur la tête. Aujourd'hui, de dire que ces gens-là sont... Bon, ils ont bien fait leur boulot, tout s'est bien passé, qu'ils avaient rien à se reprocher. Moi, franchement, je suis pas d'accord avec tout ça, et ma famille aussi, et je pense que tout le monde, parce que il y a quand même eu des preuves accablantes. C'est-à-dire que quand on sait que il y a un risque de mort dans un endroit, et qu'on s'exprime sur ce sujet, c'est-à-dire qu'on le dit clairement, s'ils rentrent sur le site, ils n'ont pas cher de leur peau. On est français quand même, on sait ce que ça veut dire. Et on sait que quand la personne, à partir du moment où une personne dit ça, c'est que cette personne, elle sait ce qui se passe à l'intérieur du site. C'est pas une piscine. Ça aurait été une piscine ou un stade, il n'aurait pas dit ça peut-être. Mais à partir du moment où il a dit ça, il savait que c'était dangereux. ils savaient les risques qu'il y avait. Et voilà, moi je comprends pas comment on peut demander relax après tout ça. Je suis encore dans ce flou là, je n'arrive pas à comprendre et j'espère qu'ils vont changer d'avis, qu'ils vont. Et que justice soit faite. C'est tout. Je pense que c'est toujours la même chose en fait. On essaie toujours de protéger la police. Et je pense que la police aussi, c'est des gens comme nous. On a des droits, ils ont des droits, on a les mêmes droits, on est dans un pays où. Voilà, au bout d'un moment, quand tu fautes, ben tu payes. Et. Quand nous, on fait des erreurs, on se retrouve devant la justice, on a des sanctions. Et ben, la police, c'est pareil, c'est des gens comme nous. À la fin, j'ai l'impression qu'en fait, la police. Peuvent se permettre de tout. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent. Mais qu'à la fin, il n'y a jamais de sanctions, il n'y a jamais de. Et nous, en fait, à force de voir tout ça, on baisse les bras. Alors que non, c'est le contraire. Faut penser au futur, à nos enfants, peut-être. Et je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de déjà ouvrir une porte. De montrer que voilà, nous aussi, on est là. On est comme eux. Franchement, dans ce pays. Quand on s'attaque à l'État, en fait, on part déjà perdant. C'est comme ça, on partait perdant déjà parce que c'est très très compliqué, très très long, et ça demande beaucoup de force, comme vous l'avez dit, beaucoup de soutien, mobilisation. Et voilà, aujourd'hui, c'est ce qu'on va essayer de faire pour les autres familles et pour faire avancer les choses, quoi, pour qu'au moins ça change, pour qu'au moins demain si un autre cas se reproduit dans les mêmes circonstances, et ben que voilà, on mette pas 10 ans pour avoir un procès, qu'on n'ait pas de non-lieu. Et aujourd'hui, en fait, je voudrais qu'on se mobilise en fait pour toutes les familles, pas que pour l'histoire Ziedebouna. Parce que l'histoire Ziedebouna, ça touchait plein de personnes. Ça touchait des gens qu'on connaît même pas. La preuve, moi là-bas, j'ai rencontré des gens que j'avais jamais vus auparavant. Et voilà, le seul moyen de faire avancer les choses, je pense que c'est de se soutenir entre nous, d'essayer d'avancer et donner de la force pour arriver au bout des choses.
Radio Galère contre les violences d'État. Émission spéciale jusqu'à 18h.
Vous êtes bien à l'écoute de Radio Galère sur le 88.4, radiogalère.org ou de Aioli Radio à Avignon en radio numérique ou sur radio-aioli.org. On vient d'entendre le témoignage du frère de Bouna Traoré qui est mort avec son ami Zied Bena donc à Clichy-sous-Bois en 2005. Et ce témoignage là qui a été réalisé par l'émission L'actualité des luttes de Fréquence Paris Pluriel qu'on remercie qui a été réalisé en 2015, nous en dit un assez long sur plusieurs aspects. Moi, j'ai trouvé, donc je suis en présence, en compagnie d'Aziz en studio, on écoutait avec attention ce témoignage qui... Alors, il y a quelque chose qui me frappe déjà, c'est que le frère de Bouna, dit, le procès, il m'a surtout... servi d'entendre que son frère n'était pas en train de cambrioler au moment où il s'est fait tuer. Et donc on en est là à 10 ans d'attente pour un procès, en se disant que normalement ça devrait être le procès des policiers, qu'ils devraient être punis pour avoir laissé des jeunes adolescents mourir suite à une course-poursuite qui n'avait pas lieu d'être dans un quartier populaire. Et le seul résultat positif qu'en tire la famille des victimes, c'est que le mensonge qui avait été dressé par les institutions et les médias ont été levées au moment de ce procès. Et c'est le seul résultat positif qu'on en tire.
C'est terrible.
C'est affligeant, c'est terrible, c'est dramatique. Ouais. Et moi, la deuxième chose que ça m'a évoqué aussi, ou qui m'a frappé dans ce témoignage, c'est la non-assistance, c'est le côté passif de ces assassinats souvent. Et en fait, on le retrouve très souvent dans la majorité des cas, les personnes auraient pu être sauvées en fait, très souvent. Et que c'est l'inaction, c'est la passivité, c'est l'omission, c'est la non-assistance qui fait que les personnes meurent. C'est-à-dire que les policiers se retrouvent souvent à regarder les gens mourir et à mettre des dizaines de minutes, parfois des heures, à appeler des secours qui pourraient prodiguer des soins. Ça s'est passé à la Belle de Mai, il y a 4 mois. Souhel s'est fait tirer dans le torse. Les secours ont mis 45 minutes à arriver. 45 minutes alors qu'on est au centre-ville de Marseille. 45 minutes serait un délai pour le fin fond de la campagne de la Lozère. Mais dans le centre-ville de Marseille, comment ça se fait que les pompiers arrivent 45 minutes après? C'est qu'ils ont été appelés 35 minutes après. Donc ils n'ont pas été au courant de la gravité de la situation.
D'autant plus que les pompiers sont juste derrière. Quoi.
Bien sûr, évidemment, comme le disait Wissam. Pour Adama ou pour Aliziri, des techniques d'étouffement où les personnes tombent inconscientes pendant des minutes, sont jetées au cachot ou en cellule. Et puis, au bout d'une heure, quand on ne voit pas la personne bouger, les pompiers sont appelés. Mais les pompiers, ils arrivent, ils constatent la mort. Ils constatent la mort. Pareil pour Zineb, pour laquelle aujourd'hui est une journée d'hommage 3 ans après sa mort. Zineb, on l'entend dans les témoignages de ses voisines qu'on a diffusés tout à l'heure à l'antenne, des témoignages qui datent de 2 jours après sa mort en 2018. Ses voisines qui disent que les pompiers n'ont pas eu accès à la rue. Les policiers peuvent évacuer une rue en pleine manifestation, mais quand il y a un blessé pour s'en occuper, là, par contre, c'est impossible de libérer la rue pour s'occuper d'une blessée grave, en l'occurrence. Donc ce truc d'omission aussi, on l'entendra dans un autre témoignage d'une famille de victimes. Il faut que j'arrive à retrouver le nom de la personne pour pouvoir vous l'annoncer. Il s'agit de... pardon, ça va me revenir... Youssef Madi qui est mort en région parisienne, noyé, et alors que des policiers le regardaient se noyer parce qu'il savait pas nager. Il avait sauté dans une rivière pour échapper à un contrôle de police, et les policiers l'ont regardé se noyer. On entendra ses proches en discuter. Et donc ça, c'est une manière de tuer quelqu'un, c'est de pas porter assistance alors qu'elle est en train cette personne est en danger imminent de mort, comme Zied et Bouna l'étaient dans ce compteur électrique. Et dire aux collègues, si je donne pas cher de leur peau s'ils sont rentrés sur le site. Ça veut tout dire, comme disait la famille.
Non, assistance à personne logique.
Exactement, voilà. Exactement. Donc la manifestation en ce moment est rue d'Aubagne, est en train de redescendre la rue d'Aubagne. Justement, ça fait un lien aussi avec, évidemment, les événements d'il y a 3 ans, puisque la manifestation qui passait au pied de l'immeuble de Zineb, c'était justement en hommage aux 8 personnes qui étaient mortes dans l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne, faut-il le rappeler. En ce moment, la manifestation est en train de descendre la rue d'Aubagne, une manifestation en hommage, en soutien à la famille de Zineb, qui se bat pour la vérité et la justice. La vérité, on n'entend que ce mot-là depuis tout à l'heure, puisque les mensonges, à chaque fois, fleurissent dès qu'il y a une personne qui meurt sous les coups de la police.
Juste pour dire qu'à cette manifestation, j'y étais là, la manifestation était parfaitement pacifique. On a été jusque devant ce qu'on appelle la mairie. S'il y a eu une volonté de créer de ce qu'on appelle du désordre à travers ce qu'on appelle les bombes lacrymogènes qu'on lançait à tout va sur tout ce qu'on appelle ce qu'on appelle l'avenue du quai du port, là, en venant de la mairie pour aller vers le... Tout, on a balancé alors que les gens manifestaient tout simplement. Et là, après, sur la Canebière, ça a été aussi, c'était inexplicable cette affaire-là de balancer des bombes lacrymogènes et d'être d'une violence. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de ce qu'on appelle des fourgons de police qui enserraient les manifestants. Pourtant, la manifestation, certes, il y avait de la colère, c'est-à-dire il y avait des ce qu'on appelle des banderoles où c'est écrit toute la colère contre ce qui s'est passé à la rue d'Aubagne et l'injustice qu'il y a dans ce qu'on appelle dans le mal logement et tout. Cette colère-là existait, mais dans ce qu'on appelle dans une manifestation parfaitement légale et parfaitement pacifique. Okay. Malgré cela, il y a une décision, peut-être qu'une instruction qui a été donnée pour balancer des bombes lacrymogènes sur tout le long de la manifestation. Et ça aussi, c'est inexplicable.
Je t'interromps, Aziz, puisqu'on est en direct dans la manifestation. Allô, allô, est-ce qu'on t'entend ?
Ouais, est-ce
que vous m'entendez, là ? Ouais, on t'entend très très bas, alors peut-être tu peux essayer de te rapprocher un peu de ton micro.
Ouais, est-ce que là, vous m'entendez ?
Ouais, allez, on t'entend.
Ok, ouais, peut-être que tu t'approches. Et bien là, du coup, la manif a descendu, donc après la peine, elle est passée sur le courrier auto où elle a été bloquée par la police.
Donc elle a été bloquée sur le courrier auto par la police, la manifestation, c'est ça ?
Ouais, là la manif est bloquée sur le courrier auto. Et il y a déjà eu plusieurs sommations, voire la dernière.
D'accord.
Pour l'instant, la police ne bouge pas, mais il y a plusieurs feux d'artifice qui sont envoyés en direct. Et voilà.
Okay.
Et la police en fait bloque complètement le courrier auto avec plusieurs caméras. Et en fait, les manifestants d'aller et de continuer vers le commissariat et vers Noailles.
D'accord. Donc la manif est courrier-auto, elle se dirige péniblement vers Noailles et le commissariat central de Noailles. Donc, et apparemment, la police essaye de stopper la manif, c'est ça ?
Bah là, la manif est carrément à l'arrêt parce qu'elle ne peut pas passer. En fait, en gros, sur la descente du cours Julien, là, ça charge.
Ok.
Ouais, attends, je remonte un peu. Mais ouais, là, le cortège de tête a été chargé par la police.
D'accord. Est-ce qu'il y a eu le temps d'avoir des prises de parole ou des prises de parole notamment ?
Non. Ben non, c'est la manière qui a été en milieu.
D'accord.
Voilà.
Bon, bah écoute, peut-être on peut rester un petit peu avec toi pour entendre l'ambiance, mais j'ai l'impression qu'on va surtout entendre des explosions, donc ça ne va pas être forcément.
Ouais, je pense que c'est pas génial, et là c'est surtout la dispersion.
Ok, c'est surtout la dispersion.
Voilà, bon, mais ça va stagner, je pense, encore un peu, parce que la brûlure.
Ok, ça marche. Eh ben, merci en tout cas d'avoir donné quelques nouvelles. On discutait justement de ça, des possibilités de manifester quand on subit des violences. Et du coup, on en est au même point qu'il y a 3 ans et qu'auparavant. Merci en tout cas du coup de fil. Vous pouvez rejoindre la manifestation qui est courrier auto. Oui, pardon ? Ah non,
j'ai rien à dire.
Ok, ça marche. Je croyais que tu parlais, mais on entendait les bruits d'ambiance. Et donc, la manifestation courrier auto coupée par la police. On en discutait à l'instant, c'est vraiment hallucinant.
On n'invente rien, quoi.
On n'invente rien. Il manquerait plus qu'une des grenades lacrymogènes tue quelqu'un aujourd'hui et la boucle serait
ce
bouclée.
Ce qu'on ne souhaite pas, quoi. Ouais.
Ce qu'on ne souhaite pas, évidemment, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait ? On va se mettre un petit peu de musique pour prévoir la suite. On va écouter les Clash, tiens. Allez, Police in My Back. Une playlist proposée par DJ B de l'émission L'Histoire, l'émission d'histoire qui ne fait pas d'histoire, que vous retrouvez les jeudis, les premiers jeudis du mois sur Radio Galère à 16h.
Radio Galère, émission spéciale contre les violences policières.
Jusqu'à 18h, donc encore pour une demi-heure, on est en émission spéciale aujourd'hui contre les violences policières en hommage à Zineb Redouane. Bienvenue si vous nous rejoignez, on suivait la manif il y a quelques secondes qui est sur le cours Lyoto bloquée par la police. Donc les groupes, les collectifs pour la vérité et la justice pour toutes ces personnes qui ont été tuées par la police, eh bien on les bloque à nouveau, la police les bloque à nouveau dans leur quête de la vérité et de la justice. Zineb Redouane est morte il y a 3 ans. Aujourd'hui, l'enquête est toujours en cours. Elle piétine, comme toutes les affaires de violences policières, pas d'exception, pour aucune d'ailleurs. Et au milieu de ça, eh bien, des personnes, des journalistes, parfois, des familles, tout simplement, essayent de faire éclore la vérité. Et dans ce cadre-là, le site d'information Disclose, l'année dernière, il y a un an pile poil, avait sorti des résultats de son enquête indépendante, une enquête sur la mort de Zineb Redouane. On écoute l'audio, qui est enfin une vidéo dont on a extrait l'audio de cette enquête menée par le site Disclose. Ça dure 7-8 minutes et donc ça explique les circonstances de la mort de Zineb Redouane.
Samedi 1er décembre 2018, dans le quartier Noailles à Marseille. À l'appel d'un collectif de riverains, des manifestants convergent en direction de la rue d'Aubagne, où plusieurs immeubles se sont effondrés 3 semaines plus tôt. Au même moment, a lieu l'acte 3 des Gilets jaunes. En début de soirée, l'atmosphère se tend entre manifestants et policiers. Aux barricades érigées sur la Canebière, les forces de l'ordre répliquent à coups de gaz lacrymogène. Peu après 19h, Zineb Redouane s'apprête à fermer les volets de sa chambre au 4e étage du 12 rue des Feuillants, en plein cœur des affrontements. Soudain, la femme âgée de 80 ans est touchée au visage par une grenade lacrymogène. Le lendemain, Zineb Redouane décède à l'hôpital marseillais de la Conception.
Zineb, Zineb, on n'oublie pas !
Sa mort, la seule liée aux manifestations des Gilets jaunes, suscite un vif émoi dans l'opinion. 4 jours après les faits, une enquête judiciaire est ouverte pour recherche des causes de la mort. Au cours de l'enquête, le commandant des CRS mis en cause a refusé de livrer l'arme à l'origine du tir. Sur les 5 policiers porteurs d'un lance-grenade au moment des faits, aucun n'a reconnu son implication. Suite à une complicité présumée entre le procureur adjoint de Marseille et les CRS, l'affaire est dépaysée à Lyon en août 2019. En mai 2020, une expertise balistique diligentée juste après la mort de Zineb Redouane est remise à la justice afin de déterminer si le tir était conforme. Ce rapport met la police hors de cause en concluant. L'arme a été utilisée selon les préconisations et les procédures d'emploi en vigueur dans la police nationale. À l'aide du rapport balistique, mais aussi d'images de vidéosurveillance, de vidéos partagées sur les réseaux sociaux et d'une modélisation 3D des événements, Disclose et Forensic Architecture ont réalisé une contre-expertise des faits. Cette analyse contredit formellement les conclusions de l'expertise officielle. Le soir des faits, une caméra de vidéosurveillance installée à l'angle de la Canebière et de la rue Longue des Capucins enregistre la scène. À 19h04, les images montrent une équipe de CRS faisant face à des manifestants rassemblés à l'angle de la rue des Feuillants. Les CRS font usage de gaz lacrymogène pour les disperser. 3 d'entre eux avancent alors en colonne vers la rue des Feuillants. Resté en retrait, un autre CRS lève le canon de son lance-grenade. À 19h04 et 57 secondes, il tire un coup de feu. L'analyse, image par image, permet d'identifier la trajectoire de sa grenade. Celle-ci est tirée en direction de l'appartement de Zineb Redouane. L'auteur du tir remonte ensuite sur le trottoir pour laisser passer un camion de pompiers. À 19h05 et 8 secondes, il lève les yeux dans la direction de son tir. 12 secondes plus tard, il regarde toujours dans cette direction. Dans les instants qui suivent, le tireur et son équipe commencent à remonter la Canebière. À 19h06 et 17 secondes, ils passent dans le champ d'une deuxième caméra. Ce sont ces mêmes images que les auteurs du rapport balistique ont utilisées pour appuyer leur analyse. Concernant le lien entre le tir de 19h04 et 57 secondes et la blessure de Zineb Redouane, l'expertise balistique est formelle. Le fonctionnaire qui a tiré la grenade qui va atteindre Madame Redouane est positionné au milieu des voies de tramway. Grâce à une modélisation détaillée des lieux, nous sommes en mesure de reproduire précisément l'angle de vue de la caméra ayant capturé ce moment clé. Au moment du tir qui va atteindre Zineb Redouane au visage, le policier se trouve quelque part dans ce cercle. Sur la base des débris et des traces de combustion retrouvées chez la victime, le rapport atteste que l'explosion de la grenade a eu lieu à l'intérieur de l'appartement. Il affirme également que la munition est une grenade lacrymogène de type MP7, munie d'un dispositif de propulsion à retard de type DPR-100. Comme son nom l'indique, le DPR-100 est prévu pour atteindre un objectif situé à environ 100 mètres du tireur. Or, depuis sa position, le tireur fait face à plusieurs immeubles de la rue des Feuillants, tous situés à une distance d'à peu près 30 mètres. L'arme, utilisée par le fonctionnaire de police, est un lance-grenade de type Cougar. Selon le texte encadrant l'usage de cet équipement, le tir tendu est strictement interdit afin d'éviter que les personnes ne soient directement impactées. Autrement dit, le tir doit suivre une trajectoire parabolique, dite en cloche. Et le document de préciser, il incombe au porteur de l'arme d'apprécier la trajectoire de la grenade et d'envisager le point d'explosion ou d'impact. Pourtant, depuis sa position et en adoptant un angle de tir compris entre 30 et 45 degrés, le policier dirige forcément son arme vers la façade d'un des immeubles situés devant lui. Une dizaine de fenêtres se trouvent potentiellement sur la trajectoire de sa grenade. Il y a donc une très forte probabilité que le projectile pénètre dans un appartement avant d'exploser et de disperser du gaz en quantité importante. Dans les faits, le projectile a heurté la partie supérieure du corps de Zineb Redouane au bout de 37 mètres. L'expertise balistique précise que l'impact a eu lieu dans la phase encore montante de la trajectoire, à une vitesse de 97,2 km/h. La violence du choc a provoqué un fracas de l'ensemble de la partie droite du visage de l'octogénaire. La victime a également inhalé une très grande quantité de gaz lacrymogène, la grenade MP7 étant prévue pour évacuer un espace extérieur d'environ 1000 m². D'après les conclusions de l'expertise balistique, la grenade aurait été tirée de façon réglementaire. Comme nous venons de le prouver, l'arme et la position du policier rendent ces conclusions irrecevables, même si l'angle de tir est compris entre 30 et 45 degrés. La modélisation 3D de l'environnement démontre précisément l'existence du danger au moment du tir. La justice doit encore se prononcer sur les conclusions du rapport balistique remis en mai dernier. Selon notre enquête, la responsabilité du tireur et de son superviseur dans la mort de Zineb Redouane reste clairement engagée.
Une enquête, une contre-enquête proposée par le site Disclose donc en 2020, c'était il y a un an pile poil, concernant la mort de Zineb. Bon, le ton est un peu difficile, c'est très journalistique et aussi on peut, bon, c'est voilà, les faits en fait on n'en doutait pas vraiment en fait, hein. Le témoignage de Zineb était clair puisqu'elle est morte 24 heures après avoir été touchée par le projectile. Elle a dit que sa fenêtre avait été visée par les policiers et donc on n'en doutait pas, mais en tout cas les images permettent de retracer les images donc de vidéosurveillance, les images qui ont été tournées par des particuliers, qui ont été postées sur les réseaux sociaux. Tout ça permet de faire une enquête, visiblement, en tout cas des journalistes arrivent à retracer, arrivent à visualiser, à suivre le policier qui a tiré. Pourquoi la justice, pourquoi le procureur, pourquoi la police ferme les yeux là-dessus? Eh ben, c'est pour se protéger les uns les autres, on n'en doute pas une seule seconde. La manifestation en hommage à Zineb Redouane, qui a commencé à 16h au Vieux-Port, est en train d'être dispersée au Courlioteau. On attend des informations encore qui nous viendraient de là-bas, mais a priori, la dispersion est en cours. On le déplore, hein, on ne peut même pas manifester pour rendre hommage à nos morts. On en est là.